le magazine des Nations Unies.
Bon dimanche à tous. Ce 8 septembre, le monde a célébré la journée internationale de l'alphabétisation. Cependant, 30% de la population congolaise, soit 18 millions de personnes, ne savent ni lire, ni écrire, ni compter en République démocratique du Congo, d'après l'UNESCO. Nous parlerons une fois de plus de l'épidémie d'Ebola qui fait encore et toujours l'actualité en République démocratique du Congo, mais aussi l'actualité de la semaine pour notre magazine. Et nous recevons ce dimanche comme invité la chargée de communication en programme alimentaire mondial, Fabienne Tompé, bonjour. Avec elle, nous parlerons des cantines scolaires, l'un des programmes à travers lesquels cette agence de l'ONU réalise ses actions. Voilà tout pour les titres, restez avec nous pour la suite.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bienvenue à votre magazine du dimanche. Nous ouvrons avec le dossier Ebola. L'épidémie fait encore et toujours l'actualité en République démocratique du Congo. Au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier, le représentant de l'OMS en RDC, le docteur Léo Degal Bazira, a fait le point sur ce sujet. Honoré Missenga, présent à ce rendez-vous, nous en dit plus.
C'est le 17 août 2012 que le ministre congolais de la Santé a déclaré l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Au stade actuel, cette épidémie a atteint le district sanitaire du Haut-Ouélé, à plus ou moins 600 km au nord-est de Kisangani. Isiro en constitue l'épicentre avec un foyer secondaire à Viadana, à 75 km au sud-ouest d'Isiro. Docteur Léo Degal Bazira tire la sonnette d'alarme.
Il s'agit d'une épidémie grave du fait de la contagiosité de la maladie, mais également de la mortalité liée à cette épidémie. Environ 25 à 90% des personnes atteintes meurent de cette maladie.
Les chiffres de l'OMS au 3 décembre pour ce nouveau foyer d'Ebola sont éloquents. 28 cas enregistrés en 2 semaines, dont 14 décès. Des mesures rapides doivent donc être prises pour empêcher l'épidémie de s'étendre vers les grandes agglomérations et les pays voisins, a prévenu le docteur Léo Degal Bazira. Mais qu'a déjà pu faire l'OMS pour appuyer le gouvernement congolais dans cette lutte? Réponse de son représentant en RDC.
L'Organisation mondiale de la santé est intervenue dès le début de l'épidémie en fournissant du matériel de protection, notamment aux personnels qui doivent prendre en charge les malades, mais également aux personnes qui sont en charge du contrôle de l'entrée aux frontières. L'OMS a également dépêché 4 experts internationaux habitués à la gestion de l'épidémie de Ebola qui sont déjà sur place, ainsi que 8 experts nationaux.
Cependant, selon l'expert de l'OMS, la lutte contre cette épidémie en RDC est évaluée à 2 millions de dollars américains.
L'OMS et l'UNICEF ont lancé un appel conjoint de fonds pour appuyer cette lutte qui s'élève à 2 millions de dollars. Nous lançons également un appel à tous les partenaires pour s'associer à la lutte contre cette épidémie qui, si elle n'est pas contrôlée rapidement, constitue un événement de santé publique pouvant rapidement constituer une urgence de portée mondiale.
Par ailleurs, le docteur Bazira de l'OMS a indiqué que selon les données actuelles, il n'y aurait aucun lien entre l'épidémie d'Ebola déclarée en Ouganda, mais déjà maîtrisée, et celle qui sévit encore en République démocratique du Congo.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Je vous l'ai annoncé, le monde a célébré hier, samedi 8 septembre, comme chaque année, la journée internationale de l'alphabétisation. Plusieurs manifestations ont été organisées par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et à l'occasion de cet événement, Honoré Missenga s'est entretenu avec le professeur Pierre Ngambembo de l'UNESCO, bureau de la RDC. L'entretien a tourné autour du concept alphabétisation que l'expert national décrypte pour vous. Suivez.
Professeur Pierre Ngambembo, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous entendez par l'alphabétisation?
Par son étymologie même, le terme alphabétisation signifie ce processus qui tend à amener les gens à être capables de lire, d'écrire et de calculer. Ça, c'est vraiment le sens premier qui est le sens étymologique. Mais le sens est voulu pour que dans la pratique, on considère que l'alphabétisation est un processus qui consiste à amener les hommes et les femmes à devenir plus autonomes et plus responsables. Parce que lorsqu'une personne est capable de lire, d'écrire et de calculer, elle a des compétences qui lui permettent de s'orienter autrement dans sa vie, de définir autrement sa vie, donc de devenir plus responsable d'elle-même et donc plus à même de contribuer au développement de sa communauté, de son pays.
Alors, professeur, comment vous définissez ce concept par rapport à un autre concept, l'éducation?
L'alphabétisation, c'est de l'éducation, mais c'est une forme donnée d'éducation. En général, on distingue l'éducation formelle, celle qui se donne à travers l'école, les universités. Il y a l'éducation non formelle, précisément, qui inclut l'alphabétisation. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation informelle, celle qui se fait de manière diffuse. Donc, l'éducation est un terme générique qui comporte à son sein des mécanismes ou des formes de mise en œuvre, parmi lesquels on peut trouver l'alphabétisation, qui est une forme d'éducation, à côté d'autres formes qui existent. L'alphabétisation concerne les gens qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Évidemment, apprendre à lire, à écrire et à calculer peut l'être dans le contexte scolaire. Et donc, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, par exemple, qui n'a pas appris à lire, à compter, à calculer, il peut y arriver par le canal de l'alphabétisation. Mais d'autres personnes peuvent y arriver également par d'autres mécanismes, ce que j'appelle tout à l'heure l'éducation informelle. Donc, on ne peut pas dire que l'alphabétisation ne concerne que ceux qui ne sont pas passés à l'école, non. L'alphabétisation concerne tous ceux qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, et qui n'ont pas appris par un quelconque mécanisme qui existe dans la société.
Alors, professeur, au-delà des définitions, quel sens l'UNESCO donne à la Journée internationale de l'alphabétisation?
Bien, disons au départ que la Journée internationale d'alphabétisation est une initiative de la communauté internationale. Le secrétariat général des Nations Unies a institué la journée du 8 septembre comme une journée internationale d'alphabétisation. Mais on l'a placée sous le pilotage de l'UNESCO. Et pour l'UNESCO, la célébration de la journée internationale d'alphabétisation est simplement une occasion de rappeler à la communauté internationale les engagements qu'elle a pris, notamment à travers le forum de Dakar qui s'est tenu en 2000, qui a défini les objectifs d'éducation pour tous. Dans ce cadre-là, on a considéré que, en ce qui concerne l'alphabétisation, de 2000 à 2015, les États devaient s'engager à réduire de 50% les taux d'analphabétisme dans leur pays.
Quel est le taux d'analphabétisme aujourd'hui en République démocratique du Congo?
Les statistiques plus ou moins officielles renseignent qu'on est à 30% d'analphabétisme. C'est-à-dire que les taux des personnes qui ne savent ni lire ni compter sur l'ensemble national s'évaluent à 30%. Bien entendu, vous pourrez dire que 30%, ce n'est pas terrible, terrible. Mais en réalité, quand on prend 30% de 60 millions ou de 70 millions, de 70 millions, on est autour des 18 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. 18 millions de personnes peuvent représenter la population totale de certains pays qui entourent la RDC. Le Congo, le Gabon, la RDC, toute cette population réunie peut constituer effectivement 18 millions. Alors imaginez l'instant que ce pays-là, que personne dans ce pays-là ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, c'est véritablement une catastrophe.
Oui, dans les 18 millions, quel est le rapport homme-femme?
Il y a plus de femmes qui sont analphabètes que d'hommes. Ça dépend du milieu. Quand on est en milieu rural, les rapports peuvent varier de simple au double. On peut trouver que par exemple, s'il y a 40% d'hommes qui ne savent ni lire, ni écrire, on peut arriver à 70% des femmes. Mais sur le plan national, les statistiques renseignent précisément que pour les hommes, on est plus ou moins à 30, les femmes, on est à 70.
Quel mécanisme de lutte utilise l'UNESCO contre ce fléau au Congo?
Notre rôle en tant que UNESCO consiste naturellement à appuyer le gouvernement. Donc nous essayons d'appuyer le ministère en charge de l'alphabétisation, qui est ici le ministère des Affaires sociales, pour que les actions qui sont entreprises évoluent vers une plus grande alphabétisation. Une des premières choses qu'on a faites, c'est d'aider le ministère à disposer d'une stratégie nationale de développement de l'alphabétisation et l'éducation non formelle. On peut également parler de la décennie des Nations Unies, l'alphabétisation, la DNUA, qui va se terminer en 2013 et à travers cette initiative, l'UNESCO s'est engagé à agir en faveur des États qui l'appuient.
Et quel est le bilan de cette décennie?
Le bilan de cette décennie, c'est qu'on peut situer maintenant l'alphabétisation dans le contexte de l'éducation pour tous. Parce que l'alphabétisation est un objectif de l'éducation pour tous. Or, il s'avère aujourd'hui qu'en 2015, cet objectif ne sera pas atteint. comme certains autres objectifs d'éducation pour tous. Il y a des pays qui ont fait des progrès, mais pour ce qui est de la RDC, l'objectif ne sera pas atteint. Mais ceci ne signifie pas qu'il n'y a rien qui est fait. Les efforts ont été consentis effectivement pour aller vers l'atteinte de cet objectif-là. Mais c'est un processus à long terme et qu'il convient d'entreprendre à temps. Si on se prend tard, évidemment, on ne peut pas arriver au résultat.
Professeur Pierre Ngamembo, merci.
Merci beaucoup.
Ces nouvelles en presse commencent par la province du Kasaï-Oriental où 25 officiers supérieurs de la police nationale congolaise ont été formés en droit humanitaire international. Formation assurée notamment par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour cette agence onusienne, au vu de nombreux abus constatés, il est impérieux de placer chaque policier devant ses responsabilités, cela pour le stimuler à travailler avec efficacité au respect et à la protection de la population civile. Formation toujours. Dans un tout autre registre, nous sommes au Maniema. Il s'est tenu la semaine dernière à Kindu un atelier de renforcement des capacités des administratifs de l'Assemblée provinciale organisé par le PNUD. Cette formation était axée sur la technique de rédaction des textes dédiés. Et puis, sachez qu'une cinquantaine d'écoliers issus des familles vulnérables ont reçu lundi dernier à la rentrée scolaire des cartables de la part du contingent népalais de la MONUSCO. Parmi ces écoliers de l'épée Chaka Chaka de Butembo qui ont également partagé un repas avec les soldats onusiens à l'occasion de cette rentrée scolaire, des enfants non accompagnés et des victimes de violences sexuelles.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Comme annoncé dans le sommaire, je ne suis pas seule dans ce studio. Fabienne Pompé, la chargée de communication au Programme Alimentaire Mondial, est avec moi depuis le début. Alors Fabienne, le 3 septembre dernier, il y a eu rentrée des classes en République démocratique du Congo et selon l'UNICEF, plus de 11 millions d'écoliers devaient reprendre le chemin de l'école. Le PAM va-t-il ou a-t-il relancé cette année encore son programme des cantines scolaires? Si oui, dans quelle contrée géographique?
Oui, nous avons repris le programme de cantines scolaires. C'est un des plus important programme du PAM, c'est un programme très ancien. Pour la RDC, c'est environ 2300 écoles qui sont réparties dans plusieurs provinces. Alors il y a l'Équateur, le Nord et le Sud Kivu, le Katanga, l'Ituri, le Maniema et dans la province orientale également le Haut et le Bawélé.
Mais qu'est-ce qui justifie ce choix du PAM?
En fait, il y a deux critères majeurs pour choisir les écoles. C'est des zones où il y a des taux de malnutrition importants et où l'insécurité alimentaire est importante, et où les taux de fréquentation scolaire sont faibles, parce que les repas scolaires, c'est une aide alimentaire, mais c'est aussi une incitation pour les parents à mettre les enfants à l'école. C'est vraiment un de nos objectifs principaux.
Ce n'est pas un nouveau programme, vous l'avez dit. En 2011, le PAM avait nourri 1 million d'enfants à travers son programme de cantine scolaire. Pouvons-nous savoir combien en a-t-il nourri pendant l'année scolaire 2012 et combien compte-t-il nourrir pendant l'année qui vient de s'ouvrir?
Alors, pour l'année dernière, 2012, c'était 1,2 million. Et cette année, ce sera 1,4. Le chiffre augmente encore, notamment à cause de l'insécurité dans l'Est et du nombre de personnes déplacées qui font qu'il y a beaucoup plus d'enfants vulnérables et en insécurité alimentaire. Donc, c'est un programme énorme, hein, 1,4 million d'enfants, c'est beaucoup. C'est un programme qui ne pourra tenir toute l'année que si nous avons les ressources financières adéquates pour pouvoir le mener à bien. On espère que, comme chaque année, les bailleurs de fonds seront à nos côtés pour nous aider à tenir ce programme au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire.
En parlant des ressources financières, combien coûte ce programme?
Alors, ça peut paraître pas énorme, c'est-à-dire que pour nourrir un enfant pendant toute l'année scolaire avec un repas par jour, c'est environ $18.50, hein, toute l'année. Mais quand on regarde le nombre d'enfants, ça fait $26 millions, donc c'est un budget énorme. Et pour ça, bah, il nous faut effectivement lever des fonds pour pouvoir assurer un service complet, correct et continu sur toute l'année scolaire.
Qu'offre exactement le PAM comme nourriture?
En fait, l'école reçoit de la farine enrichie, des légumineuses. Alors, ce qu'on appelle une légumineuse, ce sont différentes sortes de haricots. Ça peut être des haricots importés, ça peut être des haricots achetés localement pour accompagner le plat, de l'huile et du sel. En sachant que tous ces aliments que nous donnons sont enrichis, c'est vraiment très important, fortifiés. C'est-à-dire qu'on y met des vitamines, vitamine A, vitamine B, aussi du calcium, du fer, de l'iode. Et tout ça contribue en fait à améliorer améliorer à la fois la croissance des enfants, leur résistance aux maladies, ça construit leur système immunitaire, et puis ça participe au développement du cerveau et du système nerveux, etc. Donc c'est vraiment des repas qui correspondent à peu près à 600 calories et qui sont très complets d'un point de vue nutritif.
Comment le programme alimentaire mondial organise la gestion des cantines scolaires ?
La gestion de la cantine est en fait dans les mains d'un comité de parents d'élèves, auquel est associée évidemment l'école, auquel nous participons à travers nos partenaires. Alors ce sont des ONG, soit internationales, soit locales, qui opèrent directement dans les écoles. Et évidemment, notre partenaire des Nations Unies, l'UNICEF. Pour avoir une cantine scolaire, il faut quand même quelques conditions. Il faut pouvoir se laver les mains, donc il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait du savon. On fournit des assiettes et des couverts pour que les enfants puissent manger. En fait, ce sont des assiettes et des mugs, des petits bols pour l'eau. Il faut qu'ils puissent aller aux toilettes dans des conditions... Il faut que l'école soit propre, grosso modo. Il faut aussi qu'il y ait un endroit pour stocker la nourriture qui soit très sécurisé, bien fermé, pour évidemment éviter toutes sortes de désagréments, et qu'il soit protégé des bêtes, etc., pour pas que la nourriture soit altérée. Donc voilà, donc le comité de gestion, qui est composé des parents d'élèves et de la direction de l'école, s'occupe de faire que tout ça se passe très bien. On a aussi, par exemple, parallèlement, un programme de jardin qu'on mène avec l'autre agence onusienne qui s'occupe d'agriculture, qui est la FAO, où on essaye d'inciter les écoles à faire des petits jardins scolaires. C'est plutôt à but éducatif, c'est pas pour de la production, on ne fait pas travailler les enfants, c'est à but éducatif pour qu'ils apprennent quelques techniques agricoles. Mais en même temps, ça permet, quand l'école fait bien ce programme et que les parents d'élèves s'impliquent, ça permet d'améliorer aussi le repas quotidien. On peut ajouter des choux, des légumes, ce qui fait que ça varie un petit peu le quotidien des enfants.
Ok, revenons sur les contrées géographiques. Quels sont les critères que le PAM se fixe pour qu'un milieu donné ou une école donnée puisse bénéficier de ces cantines scolaires ?
C'est le même critère en fait que pour les zones géographiques. En fait, les écoles sont choisies en fonction de... Vous savez, on fait des études sur les taux de malnutrition chez les enfants. On a des chiffres sur les taux d'abandon scolaire. On croise ces chiffres-là. Parfois, il y a d'autres critères qui rentrent en compte. Si par exemple, il y a grosse population de personnes déplacées qui n'ont pas les moyens d'assurer la sécurité alimentaire des enfants. Tout ça fait qu'on choisit les écoles selon ces critères-là et les critères d'hygiène que je viens de vous ajouter, c'est-à-dire qu'on est de sécurité. Et il est évident qu'une école qui serait en pleine zone de combat, si on ajoute de la nourriture, on met finalement les enfants en danger parce que ça devient un endroit qui peut attirer les groupes armés. Donc il faut aussi toujours avoir en tête qu'il ne faut jamais faire du mal en essayant de faire du bien. Donc effectivement, protéger les enfants, ça rentre aussi dans le cadre du choix des écoles. Voilà.
Ok, est-ce que les enseignants ont aussi droit à ces repas ?
Tout à fait. L'année dernière, c'était 25 000 enseignants qui étaient donc nourris tous les jours. Ils ont en fait le même repas que les enfants. Ils le prennent le repas avec eux. Le repas se passe en général pendant la récréation du matin pour pas perturber l'école. Et nous donnons aussi des rations. Alors là, c'est pas la nourriture des enfants, ce sont des sacs entiers de farine. C'est des rations pour un mois. Ça ressemble un peu à ce qu'on donne aux personnes déplacées, que l'on donne aux mamans qui préparent. Souvent, ce sont des mamans d'élèves qui viennent et qui préparent le repas. Donc, elles aussi, on prend en charge. Du coup, elles ramènent chez elles de quoi nourrir leur famille pour le mois.
Et comment le PAM évalue l'impact de ces programmes de cantine scolaire ?
Alors, il y a deux principaux critères. C'est le taux de fréquentation. Est-ce que les enfants sont scolarisés ? Et le taux d'abandon, est-ce qu'ils restent bien jusqu'à la fin de l'année ? Et je peux vous assurer que c'est frappant de voir comment les enfants sont motivés, les parents motivés pour laisser leurs enfants à l'école. Au moins, ils ont un repas par jour. Ils sont plus aptes aussi à faire une bonne année scolaire, parce que quand on est fatigué, qu'on a faim, on est moins attentif, on est moins concentré. Donc c'est ça, essentiellement c'est le taux de scolarisation et le taux d'abandon et le taux de réussite. Bon, c'est parfois plus difficile à mesurer, mais on essaie dans la mesure du possible de voir quel est l'impact de ce programme de cantine scolaire sur l'attention des enfants à l'école et donc leur niveau en général.
Merci Fabienne Pompé. Je rappelle que vous êtes chargée de communication au programme alimentaire mondial. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Thank you. le gouvernement de la République démocratique du Congo est dans l'obligation de livrer Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale. Cette nouvelle nous amène à Bunia, en Ituri, dans la province orientale. Dans un communiqué publié mardi 4 septembre dernier, le greffier de la CPI demande à la République démocratique du Congo d'arrêter et de remettre à cette instance judiciaire internationale Bosco Ntaganda afin qu'il soit jugé de tous les crimes qu'il aurait commis sur le territoire congolais. Nicolas Kouyaku, responsable de l'unité sensibilisation de la CPI en Ituri, l'explique au micro de Martial Kizabiaming.
En vertu des accords conclus entre la CPI et le gouvernement de Kinshasa, la République démocratique du Congo est dans l'obligation de procéder à la remise de M. Bosco Ntaganda pour qu'il soit jugé par la chambre compétente concernant les crimes qu'il aurait commis sur le territoire congolais. En rapport toujours avec cette demande, la Cour pénale internationale demande au sous-gouvernement de Kinshasa de l'informer sans tarder de toutes les difficultés qui pourraient gêner ou empêcher l'exécution de la présente demande et c'est conformément à l'article 97 du statut de Rome, notre traité fondateur. Le gouvernement de Kinshasa a cette obligation de tenir informée la Cour pénale internationale de toutes les difficultés, tout obstacle qui pourrait empêcher l'arrestation et la remise de M. Bosco Ntaganda à la CPI, parce que la Cour est en mesure aussi de mobiliser d'autres ressources et de sensibiliser la communauté internationale pour que sa remise ne puisse pas perturber l'ordre public.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Je m'appelle Sylvestre Toumbo-Mirouillet, je suis de l'information publique du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA en sigle. Ça fait pratiquement 8 ans que je travaille à OCHA en tant que chargé de l'information publique adjoint. Mais OCHA n'est pas mon premier poste au sein des Nations Unies parce que j'ai commencé par la MONUC, aujourd'hui MONUSCO, mais quand j'y étais en 2002, j'ai été particulièrement à Radio Okapi. Donc pour moi c'est un plaisir de retrouver par la même occasion les auditeurs de Radio Okapi que je salue chaleureusement. J'ai passé presque 2 ans à Radio Okapi et j'en suis parti en 2004.
Je suis licencié de l'Institut de sciences et techniques de l'information. J'ai fait le journalisme. Mais avant cette licence à l'ISTI, j'ai aussi été à l'IPEN. J'en suis sorti avec un graduat. Et là, j'ai fait l'anglais et culture africaine. Donc, je suis aussi pédagogue de formation en même temps que journaliste.
J'aime beaucoup la musique. Si je dis le contraire, les personnes qui m'écoutent et qui me connaissent ne croiront pas du tout à ce que je dis. J'aime beaucoup Zaïko Langalanga. C'est pas un secret, c'est un peu le rythme qui m'a vu grandir. Et depuis, on y est. Ah, mais Zaïko, c'est une série de tubes. Hein. Moi, je peux commencer avec Zaïko depuis la Tounège. Si on est dans les années 69 jusqu'à aujourd'hui, Vimba, ben, je m'y exerce un peu. Je peux pas dire que je suis un as, mais ça me laisse pas indifférent. Ah, inévitablement. Zaïko, c'est le pas de danse tout de suite. Mais Zaïko, c'est la danse.
Concernant la nourriture, moi j'aime tout ce qui est bien cuisiné. Quand c'est bien cuisiné, j'adore.
Je suis marié, père de 3 enfants. Je vais profiter de l'occasion pour les embrasser tous. Stéphanie l'aînée, Paola la deuxième et le tout dernier. Pour ne pas dire le troisième, c'est un garçon. Il préfère qu'on l'appelle Glodino, un excellent joueur de football. Et puis mon épouse Julie, que j'embrasse aussi, qui est pour l'instant loin, loin du pays.
Je me suis toujours dit qu'il faudrait qu'un jour j'écris. Mais plus que cette histoire-là, en tant que journaliste, j'ai quand même été tellement privilégié de l'histoire de ce pays. Parce que pendant une bonne période, l'histoire du journalisme, quand je vois un peu ce qui se passe dans le pays, tout l'environnement, je me dis qu'un jour, je sais que ce n'est pas dans les habitudes de mon pays, je me dis qu'il faudrait qu'un jour je puisse témoigner de tout ça par l'écriture, en écrivant tout ce que je peux faire. Ma vie, c'est en République démocratique du Congo.
J'ai essentiellement vécu à Kinshasa. Mes premiers souvenirs sont de cette ville de Kinshasa. Est-ce que je vivrais à Kinshasa un peu trop agité? Peut-être que j'irais dans un coin un peu plus tranquille à l'intérieur du pays. Parce que quand vous vous promenez dans ce pays, vous vous rendez compte qu'il y a énormément d'endroits extraordinaires, d'endroits paisibles. Je crois qu'on peut trouver des jours heureux vers la fin de l'année.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Je m'appelle Matondo. J'aimerais savoir si, en dehors des déplacés et des réfugiés dans les zones en conflit, d'autres catégories de personnes nécessiteuses peuvent bénéficier de l'aide alimentaire du PAM. Je pense notamment aux veuves, aux orphelins et aux vieillards. Merci.
Merci pour la question, Monsieur Matondo. Heureusement pour vous, la chargée de communication au Programme Alimentaire Mondial est avec nous dans ce studio. Elle peut donc répondre à votre question. Fabienne Pompé, vous avez suivi la question de l'auditeur. Que lui répondez-vous?
Alors, effectivement, nous avons des programmes qui sont destinés à d'autres personnes que les personnes déplacées ou réfugiées, notamment, par exemple, les personnes qui sont malades du sida et qui ont accès à des traitements sont également aidées par le PAM pour pouvoir avoir une continuité de traitement. Il est important d'avoir de quoi manger. Donc, ces personnes-là reçoivent une aide du Programme Alimentaire Mondial. Nous avons aussi plusieurs programmes pour les enfants sortis des groupes armés. Pendant la période où ils sont en transition, où ils ont un suivi psychologique, formation, etc., on est là pour apporter de la nourriture. Également, les femmes victimes de violences sexuelles. Donc, il y a comme ça plusieurs catégories de personnes dites vulnérables auxquelles nous apportons un soutien. Et puis, on a des programmes qui sont un petit peu plus larges, comme on appelle ça le food for work, en fait, la nourriture contre le travail, c'est-à-dire quand les gens ne sont plus dans des situations d'urgence, mais ont besoin un peu de reconstruire leur vie et de pouvoir rentrer chez eux et reprendre une vie normale. On peut, par exemple, échanger un travail communautaire, refaire une route, refaire une école, un marché, contre de la nourriture, ce qui permet, en fait, d'apporter un plus à la communauté, d'apporter un travail à ces gens. Ils reçoivent en échange de la nourriture. C'est un bon compromis. Et puis, nous avons aussi un grand programme qui est plus, alors là, dans le développement, qui s'appelle le P4P, Purchase for Progress en anglais, achat pour le progrès en français, qui consiste à aider des petits producteurs à s'organiser. Ça, c'est avec la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe de l'agriculture, qui donne le matériel agricole, les graines, etc. Ils sont organisés et nous, notre partie au PAM, c'est de les aider à commercialiser leur production. On rachète une partie, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'ils arrivent à aller sur les marchés avant la production. Donc tout ça, ce sont des activités qui sont un petit peu différentes et qui touchent une couche, j'allais dire, plus large de la population. En revanche, on n'a pas de programme particulier sur Kinshasa. Kinshasa n'est pas dans la zone rouge, j'allais dire, de l'insécurité alimentaire. Ce n'est pas une zone d'urgence. Ça ne veut pas dire que si un jour il y a une urgence, on n'interviendra pas. Mais pour le moment, ce n'est pas des taux de malnutrition qu'on peut voir dans d'autres zones du pays où là, c'est extrêmement sérieux.
Merci Fabienne. J'invite à présent les auditeurs à prendre leur carnet et des stylos pour noter les grands rendez-vous de la semaine prochaine.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Cap.
Quelques rendez-vous à retenir la semaine prochaine. D'abord pour les Nations Unies, la visite en République démocratique du Congo du secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou. Cette visite va du 9 au 11 septembre 2012. À la MONUSCO, le 10 septembre sera organisé à Maluku un exercice conjoint entre le 14e bataillon de la police d'intervention rapide de la Légion nationale de la PNC et la police MONUSCO. Et le 13 septembre, le premier contingent bangladeshi exclusivement féminin recevra des médailles des Nations Unies. La cérémonie aura lieu à Inkal, à l'état-major de la brigade ouest de la MONUSCO Kinshasa, basée sur la route de Poids-Lourds et dont la commune de Limété. Enfin, notez également ce rendez-vous de l'ONU Femmes. Cette organisation onusienne organisera du 11 au 13 septembre 2012 des journées portes ouvertes à Bukavu au sud Kivu, des journées consacrées au rôle des femmes dans le processus de paix. Voilà, c'est la fin de ce numéro de votre magazine. Il vous a été présenté par Mireille Bukasamukenvi grâce au concours de Honoré Missingaï Ben Kabamba. Vous pouvez la réécouter, l'émission donc, ce dimanche même à 19h03, mais aussi sur notre site internet radiocapi.net. Merci de votre fidélité, à la prochaine.